Bonjour à tous, Marie Gagnol, je suis doctorante au Centre de sociologie des organisations. Je vous remercie de me laisser l'opportunité de présenter ce travail, qui est un travail en cours, puisque c'est mon travail de thèse, et qui porte, pour aller vite, sur la construction de la valeur économique dans les écoquartiers. Alors, dans ce cadre-là, j'étudie les différentes étapes de l'élaboration des écoquartiers, du rôle des acteurs publics et privés dans la construction de la valeur économique, donc dans la qualification, l'évaluation, dans la qualification, l'évaluation et la façon dont ils utilisent un certain nombre d'outils, de ressources dans ces opérations-là pour valoriser ce projet. Donc c'est une thèse de sociologie économique que je réalise au Centre de sociologie des organisations. Et donc, voilà, ce que je vais présenter, c'est un travail en cours. Je suis à peu près à mi-parcours dans mon travail de thèse. Donc, si mes questions sont en constante évolution, mes résultats sont provisoires également. Donc voilà, je suis très intéressée d'avoir votre avis sur le sujet et d'avoir l'opportunité de dialoguer avec vous. Alors, pour dire deux mots des écoquartiers, en gros, les écoquartiers sont des projets urbains et immobiliers qui sont le plus souvent implantés sur d'anciennes friches industrielles en milieu urbain et sur lesquelles on va construire des bâtiments qui sont censés être des bâtiments innovants sur le plan environnemental et où on va installer un certain nombre d'équipements verts, d'infrastructures comme des productions d'énergie renouvelable, des systèmes de gestion des eaux pluviales, etc. Alors, ces projets rassemblent des acteurs de différentes natures, des acteurs publics et privés, qui conçoivent ces projets-là comme des vitrines en termes d'aménagement et de construction durable. Alors, en gros, pour dire deux mots des étapes de l'élaboration du quartier, généralement, l'impulsion part d'une collectivité, qui est un projet urbain. Elle va désigner ce qu'on appelle un aménageur, qui est souvent un acteur semi-public, qui va acheter les terrains industriels et qui va définir avec la collectivité le projet urbain. Donc en définissant un programme de logements, de bureaux, etc. Et puis l'aménageur, comme son nom l'indique, va aménager le terrain, c'est-à-dire qu'il va bien souvent le dépolluer, l'aménager en voirie, en réseau, etc. Et puis surtout, il va le découper en lots et le revendre à des promoteurs. Et sur ces lots, les promoteurs vont devoir élaborer des programmes de logement, de bureaux, etc. à partir d'un cahier des charges un peu classique qui est fourni par l'aménageur, c'est-à-dire un nombre de logements, par exemple 50 logements, donc 15 logements sociaux, 500 mètres carrés par exemple de surface commerciale, etc. Mais une spécificité des écoquartiers, c'est qu'en plus de ce cahier des charges un peu classique, généralement, l'aménageur fournit un cahier des charges environnemental, qui est un cahier des charges qui est bien souvent contractuel, et dans lequel sont définis un certain nombre d'objectifs que les promoteurs et architectes doivent atteindre sur le plan énergétique, par exemple, mais aussi sur des questions, par exemple, de biodiversité, sur des questions sanitaires, sur des questions de gestion. Et donc, le travail que je vais présenter ici, c'est sur cette partie bien spécifique de l'élaboration de projets de logement et de leur qualification comme logement écologique, donc avant leur mise en chantier, hein, et bien sûr avant leur vente. Alors, l'enjeu de la qualification, dans ce contexte, les écoquartiers, il est double. Là, je m'appuie sur la littérature qui est assez foisonnante sur la qualification en sociologie économique, mais en gros, la qualification, on peut identifier deux processus. Le premier enjeu, ça consiste à définir, à spécifier des traits, des caractéristiques des produits, et donc, en l'occurrence, des logements. Alors, la littérature là-dessus a bien montré que ce processus n'avait rien d'évident parce qu'il rassemble des acteurs qui n'ont pas forcément, en l'occurrence aménageurs, promoteurs, architectes, qui n'ont pas la même nature, qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts, les mêmes ordres de grandeur, et donc ces acteurs doivent s'accorder sur la définition de ces propriétés. Donc ce processus suppose la création d'outils, de mesures, de classements, etc. Et par ailleurs, le deuxième enjeu, c'est que la spécificité de la qualification, la spécificité de la qualification des logements dans les contextes d'éco-quartier, c'est que les acteurs qui sont engagés cherchent à définir une offre de logement écologique qui se distingue de l'offre de logement neuf, offre de logement neuf qui est soumise de plus en plus à une évolution des réglementations environnementales. Si vous avez parcouru les textes des lois Grenet 1 et 2, hein, vous avez pu voir que le domaine de la construction était soumise à un échéancier en termes de réglementation thermique, notamment, qui prévoit de faire passer actuellement les constructions neuves en dessous d'un seuil de consommation énergétique de 500 kW par an par mètre carré à une réglementation qui, d'ici 2020, imposeront aux bâtiments une production d'énergie positive en termes de consommation. Donc, la construction, le domaine de la construction, neuve étant elle-même soumise à l'évolution des réglementations environnementales, tout l'enjeu des acteurs qui sont engagés dans la réalisation des écoquartiers, c'est de définir une offre de logement écologique dont les propriétés écologiques, précisément, sont plus performantes, sont pensées comme étant plus performantes et plus diversifiées que l'offre qui est extérieure aux écoquartiers. Donc c'est dans ce sens-là, en fait, que se comprend l'injonction à l'innovation qui caractérise la conception du quartier urbain durable. Alors, mon travail de thèse, du coup, s'appuie sur un terrain qualitatif. J'ai réalisé entre 50 et 60 entretiens et j'ai fait 10 mois d'observation chez un promoteur qui réalisait de l'eau d'un écoquartier parisien. Et j'ai assisté aux réunions en interne donc avec des architectes, promoteurs et bureaux d'études, et par ailleurs aux réunions avec l'aménageur en charge de l'écoquartier, puis aussi les services de la collectivité. Et en fait, au fil des réunions, j'étais frappée de voir que les bureaux d'études qui accompagnaient tous ces acteurs, qu'on présentait généralement comme des techniciens ou des ingénieurs très spécialisés, occupait une place vraiment centrale dans les discussions, dans les négociations. Et donc, je me suis intéressée à ces bureaux d'études. Alors, les bureaux d'études, il y en a une grande diversité hein, dans ces projets de logement, dans les projets urbains. Ils sont spécialisés, donc, il y a des bureaux d'études, structures, fluides, environnementaux. Et ils interviennent tout au long du processus d'élaboration des écoquartiers. Et donc moi, je me suis intéressée plus particulièrement au bureau d'études HQE, aux qualités environnementales, au bureau d'études environnementales. Alors ces bureaux d'études, en fait, leurs missions sont partagées en fonction de la nature de leur mandataire. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté les bureaux d'études qui travaillent aux côtés de l'aménageur et de la collectivité. Et ces bureaux d'études, ce sont eux qui ont défini le cahier des charges dont je vous ai parlé, qui est des charges environnementaux, où ils doivent donc traduire les objectifs politiques de la collectivité et de l'aménageur dans des outils, des indicateurs, des cahiers des charges. Et ce sont eux qui définissent le cahier des charges, et évidemment, et eux également qui suivent, c'est eux qui suivent le déroulement de la réalisation du projet pour s'assurer que l'équipe des promoteurs et architectes conçoit un projet conforme à leurs attentes. Et de l'autre côté, les bureaux d'études environnementaux qui travaillent aux côtés du promoteur et des architectes doivent, quant à eux, traduire le cahier des charges environnemental techniquement dans les projets aux côtés de ces deux acteurs. Donc, en fait, le rôle des bureaux d'études environnementaux dépend très largement des associations d'acteurs dans lesquelles ils sont placés. Or, comme à l'instar de beaucoup d'intermédiaires marchands, qui ont aussi fait l'objet de nombreux travaux en sociologie économique, ces intermédiaires marchands ces bureaux d'études hein, sont loin de constituer un monde unitaire. Et comme de la même manière que les consultants, les évaluateurs, etc., ils sont placés dans des marchés intermédiaires où leur place dans ces univers concurrentiels structure assez fortement le type d'outils qu'ils façonnent et qu'ils vont mobiliser. Et ce, d'autant plus, je dirais de manière encore plus saillante, sur des problématiques environnementales qui sont très récentes, où les méthodes, les mesures, etc., sont très controversées, y compris et encore plus au sein des bureaux d'études. Et en fait, pour eux, l'enjeu est double, c'est-à-dire que, d'une part, leurs outils et les connaissances qu'ils produisent et qu'ils mobilisent vont structurer la construction de la qualité dans ces projets et vont constituer des ressources pour ceux qui les mandatent, hein, donc aménageurs, promoteurs ou d'autres. Et par ailleurs, c'est par la définition de ces outils d'évaluation et de qualification qu'ils se placent eux-mêmes dans l'espace des intermédiaires qui vont construire leur réputation. Et même si le domaine de l'environnement, et en particulier dans ces projets, on a une constante injonction, donc, comme vous avez dit, à l'innovation, il n'en dépend pas moins qu'on observe certains mécanismes, peut-être pas d'appliquer, ou de dépendance au chantier, mais où certains savoirs, ou certaines technologies qui tendent à devenir des références et qui placent du coup ceux qui les ont conçues dans une situation privilégiée dans ces espaces. Donc la question que je me suis posée, hein, qui est assez simple, c'est qu'est-ce que les bureaux d'études, qu'est-ce que ces experts font au projet et en retour, hein, que font les épreuves de qualification à l'espace des bureaux d'études. Et donc ce que je vais essayer de montrer, c'est que le pouvoir de ces intermédiaires-là tient à leur capacité à se poser dans une double situation d'intermédiation. Alors, c'est des résultats qui ne sont pas les miens, que je reprends de d'autres qui sont présents par ailleurs dans la littérature. D'une part, ils sont des traducteurs au sens de Michel Calon, hein, capables de circuler entre des logiques différenciées, entre des univers sociotechniques disjoints, et d'articuler, de combiner techniquement les intérêts des acteurs du projet, et en particulier dans la qualification des bâtiments. Et d'autre part, dans la mesure où ces projets sont pensés dans une dynamique d'innovation, ce que je vais essayer de montrer, c'est qu'ils constituent par ailleurs des entrepreneurs, donc entrepreneurs au sens de David Stark, dans la mesure où ils doivent mettre en forme une expertise, produire des outils à partir de savoirs en friction. Ce que je vais essayer de montrer, c'est qu'ils doivent à la fois articuler des savoirs conventionnels stabilisés, éprouvés au sein de leur profession de l'immobilier et grâce auxquels les acteurs parviennent à minima à s'accorder. Donc, savoirs conventionnels qui sont par exemple, je vais montrer des indices, des indicateurs, des formules de calcul, etc. Donc, savoirs conventionnels qui doivent articuler avec des savoirs plus innovants, renouvelés, plus localisés et expérimentaux. Et donc, ce que je voudrais montrer, c'est que cette double fonction de traducteur-entrepreneur qui les appelle à construire les conditions de construction du jugement et des accords individuels et des accords interindividuels entre les différents acteurs du projet. Et donc l'enjeu, hein, et cette double médiation n'est pas déconnectée des enjeux marchands dans lesquels les bureaux d'études sont insérés et encastrés. Je vais vous montrer que ces mesures en termes des enjeux économiques. Ces mesures programment les enjeux économiques. Donc, première trois parties, hein, je vais d'abord essayer de montrer en quoi ils sont des traducteurs, puis des entrepreneurs, et enfin aborder la question du double levier entre enjeux marchands et enjeux techniques. Alors, le travail de conception des logements a été qualifié, hein, dans nos travaux, d'organisation par projet. par projet où sont réunis des acteurs aux logiques différenciées et parfois antagonistes. Si on simplifie à l'extrême, on peut dire que, en gros, l'objectif de l'aménageur, c'est de tenir les ambitions de la ville et de faire en sorte que les ambitions politiques de la ville et de faire en sorte que le quartier qu'il aménage sera agréable pour les habitants et les usagers. Le promoteur, quant à lui, doit tenir l'économie de son projet de manière à ce qu'il soit rentable et profitable économiquement. Et enfin, les architectes cherchent à réaliser un projet qui va les distinguer au sein de leur profession, c'est-à-dire des projets qui sont dont le geste architectural est articulé à un agencement fonctionnel remarquable. Donc, des acteurs qui sont insérés dans des ordres de grandeur différenciés. Alors, si les bureaux d'études ont un rôle crucial dans la définition des qualités du projet, c'est d'une part parce qu'ils instrumentent la qualification. Ce sont eux qui élaborent les outils de cadrage, les outils d'évaluation. Ces outils prennent la forme de comme j'ai dit, cahier des charges, mais également de bilans intermédiaires d'évaluation, d'études de faisabilité, de scénarios, etc. Et donc, qu'ils élaborent le cahier des charges environnementales ou qu'ils traduisent ces indicateurs techniquement dans le projet, hein, ils sont conduits à ajuster, déplacer, préciser, spécifier le contenu environnemental des opérations. Et ils doivent le faire en articulant les intérêts des autres acteurs, en articulant les logiques des différents acteurs. Alors, ton extrait d'entretien qui illustre cette logique-là, c'est un extrait d'entretien avec un bureau d'études coordinateur du promoteur chez qui j'ai fait du terrain. Et le contexte, en gros, voilà, il y a un des bâtiments qui était dans le projet, qui était porté par un architecte qui voulait installer une façade qui coûtait très cher, qui était très belle, qui coûtait très cher. Et donc, on va voir comment le bureau d'études parvient à articuler toutes les logiques. Il disait, moi-même, je suis architecte, donc je suis assez sensible à la qualité architecturale. Je pense que dans les dialogues que j'ai avec les architectes, c'est quelque chose qui m'aime bien et qui les aime bien aussi. Ils voient que je suis sensible à ça et que je ne suis pas là en tant qu'AMO, bureau d'études, à défendre les intérêts du maître d'ouvrage, mais que je défends aussi une qualité architecturale. Alors, je ne suis pas allée dans le truc en disant il faut faire une façade plus pauvre, mais plutôt il faut quelque chose de plus épuré, de plus sobre, parce que les terrasses végétalisées sont déjà imposantes, donc rajouter une telle façade, ça allait être trop lourd. Et là-dessus, l'architecte nous a écoutés. Elle a dit, pourquoi pas, je vais le retravailler. Donc, je lui ai demandé, donc le fait d'être architecte, oui, l'idée, c'est que dans tout développement de projet, il faut un sens, mais c'est aussi ce qu'attend l'aménageur, qui n'a de cesse de dire sur ce projet, il faut de la valeur d'usage, faire des façades végétalisées, c'est pas que pour mettre du vert, ça doit aussi être un élément de biodiversité, de confort visuel, d'agrément, par rapport à des logements qui sont situés très au-dessus du niveau du sol. Donc, on perçoit on voit un petit peu la manière dont les experts, ces bureaux d'études, sont amenés à circuler entre les logiques. Là, on voit qu'ils mobilisent à la fois un registre esthétique, sobre, duré, lourd, pour convaincre l'architecte de concevoir une façade en adéquation à la fois avec les intérêts du promoteur qui cherche des solutions économiques, moins coûteuses économiquement, et avec les intérêts de l'aménageur qui est à la recherche d'agréments, de confort visuel pour ses habitants et pour ses résidents. Or, il faut cette capacité à circuler entre des univers, des ordres de grandeur différents suppose un certain nombre de ressources. Alors ces ressources, comme on le voit dans cet entretien, elles peuvent provenir de leur trajectoire. Il y a beaucoup d'experts qui travaillent dans des bureaux d'études, qui sont architectes, qui sont ingénieurs, etc. Et puis, soit elles viennent de la diversité des profils au sein des bureaux d'études. Il n'est pas rare de voir dans des groupes de bureaux d'études environnementaux à la fois des géographes, des ingénieurs, des architectes, des urbanistes, parfois des sociologues. Et donc, par ailleurs, dans les entretiens avec les promoteurs, c'est Les entretiens avec les promoteurs hein, révèlent que le choix d'un bureau d'études, il est conduit à la fois par le niveau de technicité du bureau d'études, c'est à la fois la sophistication de leur logiciel, etc., mais également de la diversité des savoirs et des approches. Ça fait partie dans les motifs, dans les choix des bureaux d'études, c'est un argument qui revient souvent auprès des. Parmi les promoteurs que j'ai pu rencontrer. Alors, dans ce processus, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, hein, un des enjeux de la qualification de l'offre de logement écologique, c'est de différencier cette offre-là, de cette liberté, hein, de celle de l'offre de logements neufs qui sortent sur le marché. Et donc, comme je disais, hein, les bureaux d'études doivent combiner des mesures et des savoirs stabilisés, des conventions sociales qui sont partagées dans leur champ. Donc, par exemple, voilà, des indices d'étanchéité à l'air, des formules de calcul, des techniques de construction, de matériaux, etc. Avec des savoirs qui sont des savoirs plus localisés, plus innovants ou ayant été peu éprouvés. Des savoirs, par exemple, sur des systèmes de climatisation alternative, des systèmes plus innovants de production d'énergie renouvelable, etc. Alors, comment s'y prennent-ils pour articuler ces deux registres en friction? Bon, alors, j'ai distingué trois modalités à travers à la fois mes données, puisque ce que j'ai pu rencontrer dans la littérature. Alors, première modalité, c'est la mise en équivalence entre leurs projets et des réalisations qui sont considérées comme similaires et qui peuvent leur permettre de produire des bases de données pour alimenter leur étude de faisabilité. Alors, c'est comme le montrait hein, beaucoup de sociologues, en particulier conventionnalistes, c'est que c'est un processus qui ne va pas du tout de soi parce que ça repose là sur le fait de construire des catégories et puis d'associer des biens, des produits, des réalisations à ces catégories. C'est pas la mise en équivalence, c'est pas un processus qui est évident. Deuxième modalité, pour articuler ces nouveaux savoirs avec la configuration de leur propre projet, les experts doivent construire de nouvelles hypothèses de modélisation. Nouvelles hypothèses de modélisation qui s'appuient sur une formalisation de savoir, d'usage, d'anticipation, une modélisation des usages, une modélisation d'hypothèses, sont souvent non effectives, donc qui n'ont par ailleurs rien d'évident non plus. Et puis troisième modalité, c'est qu'ils doivent produire les scénarios, en particulier dans les études de faisabilité, qui leur permettent de confronter, qui permettent aux autres acteurs du projet de confronter les différents scénarios, les différents résultats, les différents projets aux autres valeurs, aux valeurs économiques, politiques, esthétiques, fonctionnelles. Je vais revenir après, j'ai un extrait qui illustre un peu ce processus-là. Mais l'idée, c'est que les bureaux d'études construisent des outils qui permettent aux acteurs d'évaluer les différents scénarios à l'intérieur d'une même échelle de valeur, d'un même ordre de grandeur économique, politique, esthétique, et entre les échelles de valeur. Alors, l'extrait suivant, c'est un extrait d'entretien avec un bureau d'études environnementales sur le même projet. Et où, en fait, le contexte était suivant, l'aménageur demandait avait fixé, avec ses bureaux d'études, un certain seuil de production d'énergie photovoltaïque à atteindre sur l'ensemble des deux lots. Et l'équipe de promoteurs et d'architectes avait élaboré plusieurs projets qui arrivaient à un seuil. Et donc, à un moment, les bureaux d'études ont évoqué l'idée de recouvrir totalement un bâtiment de panneaux photovoltaïques. Pas seulement sur le toit, mais sur l'ensemble des façades également. Et finalement, donc, ils ont travaillé pendant 2 ou 3 mois dessus, j'ai suivi un petit peu les réunions, et puis finalement, l'option a été écartée. Donc je demande au bureau d'études, qu'est-ce qui a fait que ça a été écarté? Alors, je me demande, à un moment, il était question de recouvrir entièrement un bâtiment de panneaux photovoltaïques, ça a été abandonné. Oui, parce qu'on s'est rendu compte qu'économiquement, ça ne tenait pas la route. Il y avait un surcoût pas justifié par rapport au peu d'apports complémentaires de production photovoltaïque. Alors, aujourd'hui, il y a un façadier qu'on a allé voir, qui est à Lyon, qui a bien développé son produit, mais si tu veux, ce n'est pas du tout développé à une échelle suffisamment industrielle pour effectivement que le produit en tant que tel soit rentable. Mais là, on a fait une vraie étude. Donc on a pris rendez-vous avec l'entreprise, on est allé à Lyon, on a rencontré le fournisseur de ces panneaux, il nous a montré 2-3 opérations déjà réalisées pour qu'on s'en rende vraiment compte de cette réalisation une fois mise en œuvre. Et donc toujours essayer de dire est-ce que ça a un sens, est-ce que c'est adapté au produit. Là, c'était une résidence étudiante. Une résidence étudiante, c'est un produit avec des façades régulières, c'est un produit vraiment industrialisé. Donc bon, il y avait plein de raisons qui faisaient que c'était cohérent de le faire là. On est sur le faisceau SNCF, donc là, il y a un effet d'affichage. C'est une représentation d'une partie de cette DAC, de ton quartier. Donc on affiche clairement cette ambition sur le photovoltaïque. Plein de bonnes raisons. Et puis, quand on a analysé les coûts, qu'on a fait chiffrer, etc. Finalement, ça a été abandonné. Et donc cet extrait donne un exemple hein, des types de modalités, les 3 modalités que j'ai évoquées, par lesquelles les bureaux d'études sont conduits à articuler ces savoirs, à la fois conventionnels ou innovants en fiction. Pouvoir installer des panneaux photovoltaïques en façade, hein. Ils doivent d'abord constituer un corpus de données à partir des éléments avancés par l'architecte, hein, donc là en l'occurrence ceux de l'architecture, qui sont suffisamment régulières pour les installer par exemple, et puis des données qu'ils parviennent à recueillir en mettant en équivalence le projet avec les 2-3 opérations qui sont déjà réalisées à Lyon, qui leur permettent de recueillir des données. Puis, ils doivent élaborer des calculs de production pour évaluer la performance du système. Pour ça, ils doivent intégrer, construire de nouvelles hypothèses. Alors, des hypothèses, donc ça peut être en fonction du système d'accroche, d'ensoleillement, de zones d'ombre portées, de maintenance, etc. Et enfin, ils sont amenés à construire des scénarios alternatifs qui les conduisent à confronter les différentes valeurs environnementales, économiques, politiques, etc. du projet. Donc ça leur permet d'évaluer à la fois différents scénarios. Un scénario où toutes les façades sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, un scénario avec uniquement le toit, par exemple, et de les placer et d'évaluer ces scénarios dans chaque échelle de valeur. Est-ce qu'on a un coût ou un surcoût économique? Est-ce qu'on a un affichage politique très, très, très fort en le plaçant, en recouvrant tout le bâtiment à proximité de zones de passage et esthétique? Donc, à l'intérieur, donc ça leur permet d'évaluer les scénarios à l'intérieur des différentes échelles de valeur, et entre ces échelles de valeur, et c'est ce que suggère cet expert quand il dit que le surcoût donc économique n'était pas justifié par rapport au peu d'apports complémentaires de production photovoltaïque, de valeur environnementale. Alors, mais voilà, derrière les enjeux techniques hein, de qualification des bâtiments, on retrouve un double enjeu économique. Le premier enjeu, c'est qu'est-ce que les bureaux d'études font au projet. Alors, comme j'essaie de le montrer, hein, ils élaborent les outils qui fondent les conditions de construction du jugement des acteurs et les outils qui fondent les qui structurent les négociations entre les acteurs. Et par ailleurs, s'il structure aussi assez fortement ces conditions de jugement, c'est que par ailleurs, ils sont utilisés comme des ressources par les promoteurs, aménageurs, architectes, dans leurs négociations dans leurs négociations, en particulier leurs négociations économiques. C'est parce qu'ils sont appropriés et instrumentalisés par ces acteurs que, tout au long du projet, qu'ils sont aussi structurants dans la qualification. Par exemple, dans ce même projet d'écoquartier, il y avait encore une histoire de façade d'un autre bâtiment qui était élaboré par un architecte, qui avait fait une façade aussi qui était jugée trop coûteuse par le promoteur, qui était une façade avec des matériaux en plâtre, en bois, résine, etc. Et donc le promoteur s'opposait à l'intégration de ces matériaux nobles qui jugeaient trop cher et préférait une menuiserie PVC. Finalement, l'architecte a eu raison de négociations en mobilisant le contenu du cahier des charges environnementales qui avait un certain nombre d'indicateurs en qualité de l'air et dont le PVC faisait considérablement baisser les indicateurs. Donc, c'est un des nombreux cas que j'ai rencontrés où les acteurs pouvaient s'emparer du cahier des charges environnementales, de ces outils, pour justifier des logiques qui étaient des logiques économiques, esthétiques, politiques. Le deuxième enjeu, c'est qu'est-ce que ces projets font au bureau d'études ? Qu'est-ce que les épreuves de qualification font au bureau d'études ? Alors, dans ces projets, comme j'essaie de le montrer dans la deuxième partie, ces projets poussent les bureaux d'études à renouveler constamment leur stock de savoir, leurs outils méthodologiques, leurs indicateurs techniques, de mesure, etc. Mais une fois testées et éprouvées, certaines technologies deviennent des références et ont des conséquences sur la place des bureaux d'études dans l'espace de ces intermédiaires, dans cet espace d'experts. Et par ailleurs, ces savoirs-là sont des savoirs qui sont situés socialement, parce qu'on a bien vu que la nature de leurs outils se différencie en fonction de la nature de leur mandataire. Et donc, ces processus contribuent à spécialiser les bureaux d'études comme bureau d'études aménageurs ou bureau d'études promoteurs architectes. C'est ce qu'on voit dans cet extrait d'entretien avec un autre bureau d'études coordinateur du promoteur qui me disait un bureau d'études HQ de l'aménageur, je ne les connais pas trop, mais apparemment ils n'ont pas bonne presse en immobilier d'entreprise. J'ai l'impression que ils travaillent davantage avec des aménageurs, et parce qu'ils sont un peu fondamentalistes, c'est un peu l'épi sur le retour pour dire ce qui est. Contrairement à B, qui est leur bureau d'études, le promoteur, B il est plus dans une logique client de rentabilité, prononçons les blasphèmes. Il y a les références qui jouent. B, il a fait la moitié de la ZAC, le quartier, ça aurait été incohérent d'en prendre un autre. Ça n'aurait pas de sens. La base de données, elle était chez B. B, il connaît le projet par cœur, donc ça coulait de sens. Donc ils étaient plus chers, mais ils étaient en position de force. Ils savaient pertinemment qu'on n'allait pas prendre un concurrent. Donc premier mécanisme, ça stabilise, ou en tout cas ça spécialise des phénomènes de spécialisation, des bureaux d'études. Et puis par ailleurs, une fois définis et réalisés, les dispositifs techniques ont une dimension performative. C'est ce qu'on voyait, puisque ces outils incorporent des savoirs, incorporent des savoirs, mais ces outils sont à leur tour producteurs de savoirs. Et c'est ce qu'on voyait, c'est ce qu'on percevait dans l'extrait d'entretien avec l'expert du promoteur qui avait fait une étude de faisabilité à partir des réalisations à Lyon, où il expliquait qu'il s'était appuyé sur les informations qu'il avait obtenues en étudiant ces différentes réalisations lyonnaises, qu'il avait constitué une base de données. Donc, la définition des outils de conception, de traduction, ont un effet structurant et cumulatif, ce qui fait que, pour les bureaux d'études, défendre ces formalisations de problématiques environnementales, défendre ces méthodologies, ces outils, c'est se constituer des ressources sur le marché des experts. Il y a un bureau d'études, par exemple, un bureau d'études environnementales qui est connu pour avoir réalisé le premier bureau sans clim en France et qui vend cette expertise-là. Qui est connu pour ça et qui du coup intervient dans beaucoup de gros projets d'écoquartier. Et du coup, c'est ce qu'on voit, c'est ce que vous disiez le bureau d'études coordinateur de l'aménageur, hein, que, du même écoquartier, qui vous disait à propos d'un autre bureau d'études, spécialisé sur les questions photovoltaïques, il disait des bureaux d'études qui ont la compétence de H, il n'y en a pas beaucoup en fait, c'est vraiment, quand on, c'est pas un hasard, des gens qui sont à ce niveau-là d'expertise, il n'y en a pas énormément. C'est un bureau d'études qui intervient énormément auprès d'aménageurs et qui a réalisé énormément de gros écoquartiers en France. Alors du coup, bon, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que dans le travail de conception et de qualification des logements écologiques, le rôle des intermédiaires marchands, de ces intermédiaires marchands, ces bureaux d'études, ces experts, est loin de se cantonner à un travail de validation, hein, comme je disais en introduction, de validation des choix architecturaux, urbains, économiques, politiques. Mais c'est ce double travail, il réalise un double travail de médiation qui est structurant dans la qualification des logements écologiques. Et ce travail de médiation, il découle autant de leur technicité propre, hein, que de leur capacité à se placer comme intermédiaire, que je qualifie ici d'entrepreneur, de traducteur, entrepreneur, prenant d'autres résultats de la littérature, donc de se placer comme intermédiaire entre l'univers sociotechnique des joints, et parce qu'ils sont les seuls à même de jouer cette tension que j'ai évoquée entre savoir conventionnel et savoir en convention et savoir innovant, et de mettre en forme des outils d'expertise qui à la fois jouent de cette friction et articulent les intérêts des différents acteurs. Or, ce que j'ai essayé de montrer également, c'est que la caractérisation à travers le processus de qualification, ce qui est en jeu, ce n'est pas uniquement la caractérisation des traits, des propriétés des biens, en l'occurrence des logements écologiques, mais que la qualification a des implications à trois niveaux. Premièrement, elle est constitutive de la stabilisation des instruments d'expertise. C'est au cours, comme ont montré un certain nombre de travaux, hein, c'est au cours des épreuves d'évaluation, des épreuves de qualification, que les instruments, les outils d'évaluation de qualification se constituent. Deuxièmement, ces processus de qualification contribuent à stabiliser l'identité, la position des experts dans l'espace des bureaux d'études et dans l'espace de la conception des logements, puisque, comme ont montré un certain nombre d'auteurs, ces outils-là ne sont pas extérieurs aux acteurs qui les portent. Hein. Ils incorporent des savoirs qui sont spécifiques aux groupes qui sont spécifiques à ces groupes d'acteurs, et acteurs qui les mobilisent pour se constituer en tant que groupe, constituer leurs frontières, constituer leur légitimité. Et d'ailleurs, à cet égard, hein, ce qu'ont montré un certain nombre de travaux là-dessus, c'est que cette légitimité-là, elle tient moins à la validité propre, hein, de leur expertise, que leur capacité à mettre en forme des savoirs dans des outils qui apparaissent comme légitimes auprès des acteurs auxquels ils sont associés. Et puis troisièmement, hein, le processus de qualification participe à la stabilisation des relations entre les acteurs dans des modes d'organisation par projet. Organisation par projet, où on a un renouvellement constant des associations d'acteurs mobilisés. À chaque fois, les aménageurs, promoteurs, architectes, bureaux d'études interagissent dans des configurations qui sont spécifiques, des configurations sociales, hein, qui sont spécifiques à chaque projet de logement, qui sont singulières. Et par conséquent, les processus de qualification contribuent à spécifier les relations et les mécanismes de coordination qui sont propres à ce type d'action collective. Voilà, je vous remercie.